Le journal de Léonie Hedrover.
Bonsoir. Grand chambardement à la tête de Delémont BD à quelques mois de sa 12e édition. Selon une information du média satirique La Torche, le directeur artistique Cédric Humer et la présidente Jessie Gigandet ont démissionné. Le vote blanc massif lors de la récente élection à la mairie de Failly, mieux cerné. 47 citoyens ont répondu à un questionnaire des autorités communales. Une majorité dit avoir souhaité désavouer les candidats proposés. D'autres voulaient sanctionner le travail de l'exécutif. Les objectifs du monde entier sont braqués dès aujourd'hui sur Davos. Le Forum économique mondial a démarré ce matin avec la présence annoncée de 65 chefs d'État. Dans son discours, Guy Parmelin a mis l'accent sur la stabilité des relations internationales et le dialogue. Les brouillards vont se reformer durant la nuit. Ils seront parfois givrants demain matin et se montreront persistants jusque dans l'après-midi par endroits. Soleil au-dessus, un épisode pluvieux est annoncé pour jeudi. Démission en cascade à Delémont BD. Le directeur Cédric Humer a récemment démissionné de ses fonctions, tout comme la présidente du comité d'organisation, Jessie Gigandet, un peu plus tôt. Information révélée aujourd'hui par le média satirique jurassien La Torche. Déjà secoué ces derniers mois par diverses interventions politiques, Delémont BD va devoir renouveler sa direction à 5 mois de sa prochaine édition. Jérémy Pignard.
Delémont BD se retrouve sans tête. Plusieurs sources proches du dossier nous confirment les démissions de la présidente Jessie Gigandet, nommée il y a moins d'un an et demi, et du directeur artistique Cédric Humer, arrivé fin 2023. La manifestation a été visée par plusieurs interventions politiques ces derniers mois, une coupe dans ses subventions l'année dernière, et plus récemment un postulat accepté par le conseil de ville pour que le festival ne se tienne plus que tous les 2 ans et non plus chaque année. La Torche évoque également un climat de travail délétère avec le responsable de la bibliothèque. Pour reprendre Delémont BD, le média satirique annonce le retour probable de Philippe Duvanel, directeur durant 9 ans avant de passer la main en 2023. Contacté, il dit avoir gardé des relations d'amitié avec Delémont BD, ne confirme pas formellement son retour, mais renvoie à une conférence de presse qui aura lieu jeudi pour faire la lumière sur ses derniers chambardements.
Tous deux contactés, les démissionnaires Cédric Humer et Jessie Gigandet n'ont pour l'heure pas répondu à nos sollicitations. Le conseil communal de Failly prend le pouls de son village. L'exécutif a transmis en fin d'année un sondage aux habitants. Les réponses ont été analysées hier soir par les élus. Ce questionnaire fait suite au vote blanc de la dernière élection à la mairie. Le 30 novembre, 37% des votants avaient glissé un bulletin vierge dans l'urne. S'en était suivie la démission du maire fraîchement élu. Les 4 membres de l'exécutif qui œuvrent toujours pour la commune souhaitaient connaître les raisons de ce vote blanc. Nancy Chapuis.
Le conseil communal a reçu 47 bulletins sur les 180 questionnaires envoyés. Les citoyens pouvaient cocher une ou plusieurs réponses sur la signification de ce vote blanc. 22 ont affirmé que c'était une sanction du travail de l'exécutif communal et 34 un désaveu des candidats proposés. La vice-maire Arlette Toulmane n'est pas étonnée de ce résultat. Un courrier sera adressé aux habitants de Failly prochainement pour leur demander de s'engager pour la commune. L'exécutif recherche donc un nouveau maire et un conseiller communal puisque Louis Schutz a présenté dernièrement sa démission en raison d'un futur déménagement. Un tout ménage sera transmis pour indiquer le jour de dépôt des listes. Lors de la précédente élection, le conseil communal n'avait pas fait cette démarche, ce qui avait été largement reproché.
Les élections à la mairie et au conseil communal doivent se tenir en avril. François Billig cède les rênes d'Acrotec. Le fondateur et dirigeant du groupe basé à Develier sera remplacé par le français Didier Deltor à partir du 2 mars. Le groupe industriel spécialisé dans la micromécanique de haute précision l'annonce aujourd'hui dans un communiqué. François Billig gardera un pied dans le groupe Acrotec en devenant chairman non exécutif. À ce titre, il accompagnera la prise de fonction de son successeur et soutiendra le conseil d'administration dans la mise en œuvre de la stratégie du groupe. L'homme de 67 ans se cherchait un successeur depuis un certain temps. François Billig revient sur cette décision.
Malheureusement, j'ai été rattrapé par la patrouille du temps qui passe. Je suis dans ma 68e année, il fallait que je trouve une solution. La succession était un sujet qui est brûlant chez nous, puisqu'il faut qu'une entreprise elle continue, elle n'est pas liée à son dirigeant. On était à la recherche de mon successeur.
La décision aussi de quitter ce poste de CEO, c'est quand même une décision assez difficile à prendre.
Je suis le fondateur et le dirigeant historique. Je crois que les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Pour moi, c'était important pour l'avenir de l'entreprise, pour que l'entreprise continue à se développer, de trouver un successeur qui puisse remplir cette tâche.
Donc, vous avez fondé Acrotec il y a 20 ans. Que retirez-vous de toutes ces années en tant que CEO du groupe Acrotec ?
Alors, beaucoup de plaisir. Toute ma vie, j'ai eu la chance de driver par l'énergie du plaisir, qui est l'énergie la plus facile à réunir. J'ai adoré développer d'une façon organique le groupe, mais aussi d'acquérir des entreprises, de faire de la croissance externe. J'ai rencontré beaucoup de gens différents. L'ancrage local d'Acrotec m'a beaucoup apporté. J'apprécie cette région. Et si aujourd'hui le siège d'Acrotec est encore dans le Jura, j'ai une certaine reconnaissance à ce canton qui m'a accueilli, qui a toujours été favorable au développement du groupe et surtout, il ne m'a jamais mis de bâton dans les roues.
François Bilic répondait à Florian Wolfer, entretien complet avec le fondateur du groupe Acrotec sur rfj.ch. Un nouvel organe de lutte contre le frelon asiatique vient de voir le jour. Fondée à Moutier fin 2025, l'Association intercantonale contre le frelon asiatique, ou AIFA, propose de réunir et coordonner toutes les personnes intéressées, bénévoles comme professionnelles, concernées par la lutte contre cette espèce invasive. Jean-François Bessir, président de l'AIFA, évoque l'objectif de cette démarche.
Alors, le but premier est d'être, entre guillemets, le soldat de la protection de la nature, mais notamment pour fédérer des groupes d'îlots, c'est-à-dire chaque région, chaque commune ou petit secteur définissent leur groupe d'intervention ou de recherche et de localisation, et c'est de fédérer tous ces petits îlots de manière cohérente.
À noter que l'AIFA souhaite être active dans le Jura bernois, le Grand Val et le Petit Val, mais aussi dans une partie du canton de Soleure. Elle y prévoit des activités d'information et de sensibilisation avec le public et les autorités, ainsi que de la recherche de fonds pour acquérir du matériel. 3000 participants de 130 pays, dont 65 chefs d'État. Davos est le centre du monde cette semaine. Le Forum économique mondial a ouvert officiellement ses portes ce matin. Le président de la Confédération a pris la parole au nom des autorités suisses. Guy Parmelin a commencé son discours par une pensée pour les victimes de Crans Montana. Il a remercié les nombreux pays concernés du soutien et de la solidarité témoignés lors de ce drame. Guy Parmelin a ensuite rappelé l'attachement de la Suisse à des relations internationales stables dans un esprit de dialogue.
L'une de nos priorités en ce moment est de pouvoir stabiliser et développer nos relations avec nos partenaires les plus fidèles et les plus significatifs. Et la Suisse souhaite par ailleurs poursuivre la diversification de ses relations internationales, notamment dans les domaines commerciaux et scientifiques. Même durant la période actuelle, encline au protectionnisme, nous croyons au succès du libre-échange et nous voulons développer notre réseau d'accords en la matière. Et pour y parvenir, il faut pouvoir mener des négociations d'égal à égal qui donnent de bons résultats pour le bien de toutes les parties. Des accords de ce type, réciproquement avantageux, ne tombent pas du ciel. Mais nous avons la capacité de les construire pas à pas. Pour ce faire, les contacts personnels et la volonté de dialogue sont indispensables.
Guy Parmelin n'a mentionné ni les États-Unis ni le Groenland. Après lui, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pris la parole. Elle a défendu l'indépendance européenne et la suppression des taxes douanières, des revendications répétées par le président français Emmanuel Macron, qui s'est exprimé en début d'après-midi. Des aurores boréales ont enchanté le ciel la nuit dernière, y compris dans la région. Ce phénomène est plus fréquent sous nos latitudes depuis quelques années. Le météorologue de Météo News, Vincent Devantet, nous explique pourquoi.
Ça dépend uniquement des cycles solaires et de l'activité solaire. C'est quelque chose qui est encore très mal compris et mal appréhendé. On a des périodes, des cycles solaires qui durent 11 ans, d'autres qui durent 20 ans. Et là, actuellement, ces derniers mois, on est dans une période d'activité solaire assez marquée. Mais c'est vrai que ces éruptions solaires sont vraiment très difficiles à prévoir. Là, cette éruption n'a pas pu être prévue d'ailleurs, même si elle était assez exceptionnelle. On s'en est rendu compte qu'une fois qu'elle s'était produite. Donc tout le monde était un petit peu surpris, même les scientifiques, par ces aurores boréales hier soir. C'était un phénomène assez inattendu et, faut dire, assez magnifique aussi.
Et il est possible que le phénomène soit à nouveau visible ce soir entre 21h et 23h depuis les hauteurs et en regardant vers le nord.
RFJ, il est 18h11.
RFJ, sport.
Un nouveau podium pour Camille Rast. La Valaisanne a pris la deuxième place du géant de Kronplatz cet après-midi en Coupe du Monde de ski alpin. La victoire est revenue à l'Autrichienne Julia Scheib en Italie. Elle a précédé la Suissesse de 37 centièmes et la Suédoise Sarah Hector de 46 centièmes. Une seule autre Suissesse a pris place dans le top 15 avec le 14e rang de la grisonne Vanessa Casper. La fête du football n'a pas eu les mêmes retombées pour les clubs jurassiens engagés en Coupe de Suisse. Le FC Courtetel, le FC Ajoie Monterrey et le FC Diaspora ont vécu un mois d'août historique avec la réception respectivement de Young Boys, Sion et Neuchâtel-Xamax en 32e de finale de la compétition. Plusieurs mois après ces rencontres de gala, un constat est clair, les retombées varient entre les différents clubs jurassiens. Michel Léoni.
Sans surprise, c'est Courtetel qui s'en sort le mieux. Les Verts avaient accueilli 3500 personnes lors de la venue d'Ibé, de quoi générer plusieurs dizaines de milliers de francs de bénéfices. Le président du club, Vincent Jolidon, indique qu'un fonds de réserve a été constitué et qu'il sera utilisé pour améliorer les infrastructures. De l'argent a aussi été redistribué dans les différentes caisses d'équipe. À Ajoie Monterrey, le bilan financier est assez bon après la visite de 2500 spectateurs. Selon le président Jean-Baptiste Petit, qui n'articule toutefois pas de chiffres précis. Bilan qui n'est d'ailleurs pas encore définitif. En effet, le club Ajoulot n'a pas pu s'arranger ni avec Sion, ni avec ses supporters pour s'acquitter d'une somme de 8 à 9 000 francs prévue pour la réfection du terrain synthétique de Courgenay qui avait été endommagé par des engins pyrotechniques des supporters valaisans. Une décision de l'assurance du club jurassien est attendue. Enfin, Diaspora n'a pas réussi un coup flamboyant. Selon son président Berat Iliazi, le bénéfice ne se monte qu'à 4 à 5 000 francs et ce n'est pas grand-chose compte tenu du temps investi, d'après Berat Iliazi, qui pointe du doigt des frais de sécurité exorbitants. Seules 1200 personnes avaient assisté à la rencontre des Aigles contre Xamax.
Bienne accueillera prochainement une équipe semi-professionnelle de football américain. Le propriétaire de la future formation appelée les Alpine Rams prévoit de mettre sur pied un contingent capable d'évoluer au plus haut niveau européen dès cet automne. Si l'Allemand Oliver Magen a choisi la Suisse, c'est parce qu'il y sent un potentiel de développement dans ce sport. Et s'il a choisi Bienne, c'est parce que la ville est un point central entre différentes villes qui abritent les talents helvétiques de ce sport. Et même si cette pratique n'est pas encore vraiment développé dans le pays, Olivier Majeune est confiant quant à son implantation dans la cité zélandaise.
On essaie de convaincre les joueurs, les coachs et les supporters en tenant nos engagements. On a promis qu'on voulait briller et aligner les bonnes performances au plus haut niveau européen. On s'engage aussi à promouvoir notre sport auprès des plus jeunes et de travailler dans la formation. Nous souhaitons vraiment aussi soigner l'image du football américain en Suisse. Notre contingent sera un mélange de différents profils. Il sera composé de plusieurs joueurs helvétiques en les sélectionnant par rapport à leur niveau et en faisant en sorte qu'ils soient capables d'évoluer à un tel niveau. Nous accueillerons aussi plusieurs joueurs internationaux, dont des Américains. Nous avons droit à 10 joueurs qui viennent de l'extérieur de la Suisse. Le reste doit être formé d'éléments helvétiques.
Aus Amerika und Europa erlaubt und der Rest des Kaders sind Schweizer Spieler.
Plusieurs joueurs ont déjà été recrutés, dont des Américains. L'entraîneur de la formation a aussi déjà été nommé. Il s'agit de Joshua Fitzgerald, qui œuvrait jusqu'à présent à Ville au sein de la franchise la plus cotée dans le football américain helvétique. La saison commencera en septembre et l'équipe basée à Bienne défiera des équipes de plusieurs pays européens, notamment autrichiennes, allemandes et françaises. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.
RFJ Sport.